Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Et du thème de l'espace dans le cinéma. Alors évidemment, l'espace fascine les réalisateurs autant que le public et nombreux sont les films qui parlent d'espace, de conquête spatiale, qu'ils soient réalistes ou de science-fiction. Et qui, sur Radio Présence, de mieux placé pour parler cinéma que Louis-Marie Solaire. Je me suis donc invitée chez Louvreuse pour parler espace et cinéma et voici ce que je vous en ai ramené pour aujourd'hui. Deux films qui ont vraiment démocratisé l'approche de l'espace avant même que les séjours dans l'espace ne deviennent aussi habituels que maintenant.
Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois. Le 12 janvier de l'année 1992. Monsieur Langlais était mon instructeur. Et il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Je peux vous la chanter.
Est-ce qu'on va la laisser chanter? Ou okay, le Google. Laisser chanter cet homme, en fait, qui n'en est pas un, c'est pas du tout non, un homme, mais c'est une machine.
Ouais, c'est une machine, c'est une intelligence artificielle. Il le dit très bien d'ailleurs, il s'appelle Carl et le C de Carl, c'est cerveau. En anglais, il s'appelle Hal.
Oui. Il n'a pas un nom, un nombre aussi, 9000, je crois.
Oui.
C'est vous savez pourquoi il s'appelle Hal? Parce qu'il pouvait. C'est le décalage des lettres par rapport à
par
IBM.
Rapport à IBM, ouais.
Oui.
Si on ne peut pas utiliser IBM, une lettre décalée, ça fait.
Ça fait IBM.
Dites-moi, mais vous êtes docte.
Oui, mais vous êtes savant. Docte,
mais savant. Alors, vous avez bien sûr reconnu le fameux ordinateur, la fameuse intelligence artificielle, imaginée par Arthur C. Clarke, mais aussi un peu par Stanley Kubrick, pour ce fameux film 2001, L'Odyssée de l'espace, sorti en 1966. Un film... 66, c'était un homme et une femme. En 68, et à l'époque, c'était un film qui passait pour... Un film épique, puisque peu de films atteignaient ces durées, 156 minutes.
Et encore, il y a 20 minutes qui ont été retrouvées à la Warner, en fait, qui n'ont jamais été diffusées. À sa sortie 2001, il a surtout soulevé pas mal de tollés, en fait, parce que c'est un film qui a été très incompris. Bon, parce qu'il avait une forme très originale, il y a très peu de dialogue dans 2001. La première ligne de texte, c'est après 25 minutes de film. Donc c'est quand même très très long.
Oui.
Il y a les singes qui crient au début, mais bon.
Oui, c'est ça. On ne peut pas vraiment dire que ce soit du texte. Et c'est plutôt, on peut dire en fait que c'est plutôt une expérience visuelle, une expérience musicale, plutôt qu'une histoire racontée. D'où l'incompréhension au début. Donc 2001, en fait, ça raconte des bouts de l'évolution de l'humanité. Et ça se passe en grande partie dans l'espace, d'où 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour resituer, donc il sort, comme vous l'avez dit, en 1968. À ce moment-là, on est en pleine course à l'espace. On est un an avant que Neil Armstrong ne pose le pied sur la Lune, puisqu'en fait, il le fera qu'en 69. Mais 2001, c'est quand même un concentré de science, d'anticipation. Il se passe plein de trucs. Voyage dans l'espace, sortie sur la Lune, sortie extravéhiculaire, les vaisseaux. Sont d'un réalisme à couper le souffle, intelligence artificielle, on l'a
bien
dit.
Sûr.
Il y a même des tablettes
dans
2001, alors que tout ça ne se passe qu'en 68. Alors, du coup, je trouve ça rigolo parce que Carl, il dit, je suis né en 1992. Bah, moi, en 1992, j'étais né, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle aussi fine que ça.
Minitel, bon.
Mais ça n'était pas capable de chanter des chansons, quand même.
Non, effectivement. Et on sait aussi que Kubrick n'aimait pas trop avoir des compositeurs de musique pour ses films. En fait, quand il n'aimait pas trop, c'est pas certain. Un jour, il avait quand même téléphoné à Ennio Morricone. Il est tombé sur Sergio Leone et il voulait proposer à Morricone de lui écrire une musique de film. Et Sergio Leone... répondu alors qu'il avait fini. Il était une fois en Amérique, je crois, et il avait fini. Il a dit non, il est occupé. Et donc, comme il est occupé, Kubrick n'a pas eu affaire avec Ennio Morricone.
Il n'a pas insisté
et il a continué à utiliser des musiques existantes déjà. Alors, dans ce film, il y a pratiquement les musiques de tout Strauss. Hein, à savoir Johann Strauss fils, il y a Richard Strauss,
père, les Zarathustra, le beau Danube bleu.
Et le beau Danube bleu, qui c'est là où on voit justement une station orbitale avec un vaisseau
de ligne. Une espèce de valse comme ça qui tourne.
Exactement. Avec une hôtesse de l'air. Qui a
des chaussures
spéciales qui lui permettent
pour tenir la
tête en bas. Ouais. C'est assez extraordinaire. 2001, l'Odyssée de l'espace, et on écoute le début d'Ainsi parlait Zarathustra. On ne peut pas faire autrement. Ainsi parlait Zarathustra, Richard Strauss.
Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Tu ne peux pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te tuer. Luke, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
Je ne serai jamais votre allié.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis ton père.
Anne-Françoise, sans doute une des répliques les plus fameuses de la saga dont vous allez nous parler.
Peut-être celle même de les Star plus Wars. Fameuses du cinéma. Hein.
C'est vrai, je suis ton père.
Reprise innombrables fois.
Extraordinaire, la saga Star Wars qui commence donc en 1977 et qui s'achève en 2019. Alors en commençant en 1977, elle commence pas par le début, en fait. Puisque
ça c'est toujours compliqué quand on parle de Star Wars, les premiers. Oui, mais est-ce que c'est chronologique ? Ou est-ce que c'est dans l'histoire ? Ça c'est toujours un petit peu compliqué. On va s'en tenir aux chiffres chronologiques. Les dates de sortie pour en parler, ce sera plus
Alors il y a 9 films.
Il y a 9 films.
9 films, 2 spin-offs. De long métrage. Et puis après, il y a des séries.
Une ribambelle de séries.
De séries en images réelles, de séries animées. Il y en a beaucoup. Alors, les deux spin-offs sont Solo, Star Wars Story, et il y a Rogue One.
Rogue One, exactement.
Qui se situe dans la chronologie en 4 et 5e position.
C'est ça, pour rajouter encore un petit peu de complexité à l'affaire.
À
on croyait qu'on avait compris qu'il y avait d'abord les 3 du milieu, ensuite les 3 du début, puis les 3 de la fin, mais non.
Mais non, on a rajouté donc les 2 dont on vient de parler. Alors en 77, c'était Star Wars, et puis c'est devenu un nouvel espoir, parce qu'il y a eu des préquels, 3, une trilogie qui se place avant et une trilogie qui se passe après. Alors vous nous en parlez comment, Anne-Françoise ?
Moi je vais vous en parler par rapport à l'influence incroyable que Star Wars a eue sur toute la pop culture. Donc en fait en 77, Star Wars se passe dans un futur donc très très éloigné, dans une galaxie très très éloignée aussi. Et en fait on découvre du coup une histoire dans laquelle les hommes maîtrisent le voyage dans l'espace, le voyage très rapide dans l'espace, et donc ils ont, on a tous en tête les vaisseaux, les stations spatiales, les combats dans l'espace avec des tirs laser dans tous les sens. Alors, information, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une explosion dans l'espace. Il n'y a pas d'oxygène pour faire brûler quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de bruit d'explosion. Et d'ailleurs, dans les derniers Jedi, donc dans le 8, il y a des collisions de vaisseaux, enfin des vaisseaux qui sont détruits dans un silence parfait. Et ça, c'est beaucoup plus réaliste, par exemple. Mais par contre, il y a des choses très réalistes dans Star Wars, comme par exemple l'existence de systèmes binaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur les, donc du coup, dans les 4, 5, 6, il y a deux soleils sur, si je ne me trompe pas, Tatooine. Et puis, il y a aussi tous les mondes, toute l'infinité de mondes, toutes les exoplanètes, donc c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Il faut savoir qu'en 77, on ne connaissait pas l'existence d'exoplanètes. On ne connaissait que les planètes du système solaire. Et George Lucas, lui, faisait déjà exister d'autres mondes avec une variété complètement infinie de ces mondes, des personnages qui peuvent la peupler. Donc on avait les Wookiees, les Ewoks, enfin plein de voilà. Et ça s'amplifie encore du coup dans le 4, où là, il y a carrément une variété complètement folle, en fait, de gens qui peuplent l'univers. Et donc, ça montrait bien l'infinité de cet univers qui nous entourait. Un grand merci à Louis-Marie pour son accueil et ses commentaires avisés, incollables qu'il est sur le cinéma. Alors, évidemment, on a dû parcourir très vite ces deux immenses fresques cinématographiques. N'hésitez pas à réécouter l'émission « N'oubliez pas l'ouvreuse » du 19 juin 2024 pour en avoir l'intégralité, d'où sortent ces extraits. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres films plus récents qui se passent aussi dans l'espace.